Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Le Pot Avendano, le show 100% débat.
Hey, salut tout le monde. Salut Alec, en forme?
Ça va bien toi, Fred?
Ça va bien, ça va bien. Nilton, comment ça va, Nilton?
C'est faux. Le chandail est beau, mais franchement, Dr. Faux. Un jour, on va le trouver, Dr. Faux. Je commence à le centraliser là, vers selon les types de tweets, puis le Android. Là, je commence à avoir une idée, c'est qui. Au début, je pensais que c'était toi.
Il voulait te poser une question, Nilton, à savoir si l'impact était... Maxi ou Routi dépendant? Parce que,
toi, tu dois être déçu, hein, Fred, parce que ça aurait été tellement mieux si on avait pris le pari cette saison. T'sais, on aurait pu l'annuler parce que la moitié de la saison a été annulée. T'sais. Tandis que là, y a, tout de suite, là, grâce à toi, j'ai eu l'air d'un génie en 2019.
C'est clair. Ça me dérange pas. C'est un 100$ bien investi.
Plus, j'étais à la soirée quand le pari est arrivé. Au début, c'était 20 buts, non? Ou 15 buts, je pense, le pari?
Ah, tu vois, Fred l'a pas pris.
Non, ça a toujours été 10.
Ah, ça, c'était un peu plus au début.
Ouais.
Non.
Je sais même pas pourquoi j'avais cette soirée-là. Tu sais, c'était tellement de l'argent facile. C'était, je voulais pas mal faire paraître Fred. Tu sais, ça a tellement fait Fred. Je pense qu'on l'a pas vu de l'année. Hein. 2019, le Fred a été super tranquille. Voilà.
J'ai au stade, mais c'est tout.
Ça, mais maintenant, on est redevenu amis. Max Routy et moi, on est les best boys. Là. C'est mon best. Là. J'ai pensé prendre ton argent puis m'acheter un jersey de Routy avec.
T'aurais dû. Pour vrai, ça aurait été nice.
On peut faire un kit tout de suite.
Il y en a déjà trois.
Ouais. Puis si on récolte les buts que l'adversaire a marqués pour lui l'an passé, je suis sûr qu'il est pas loin du 10 quand même.
Je pensais que tu allais dire si on commence à comptabiliser les kilomètres.
J'avoue. Non, c'est de plaisanterie, Nilton. Merci de joindre à nous pour cet épisode du Le Pot Avendano. Tu es très, très actif ces temps-ci. Tu as un super beau podcast que tu as fait avec Sofiane justement il y a deux jours. Tu veux en parler un petit peu, dire quelques petits hints que vous avez dans cette émission-là pour ceux qui ne l'ont pas écouté.
Ouais, c'est cool. Ça fait un petit bout là, qu'on veut sortir un peu des podcasts après match. Là. Il commence à en avoir aussi beaucoup. Puis comme on disait souvent en blague, mais c'est quand même un peu vrai avec Sofiane et moi, on dirait que c'est toujours le même match qu'on voit. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Puis on voulait, c'est ça, avoir une espèce de dynamique avec des invités. Là, on a commencé avec des invités qui touchent un peu plus le foot. Mais tiens, on aimerait ça aussi avoir du monde qui vient pas du milieu du foot, mais qui consomme du soccer et ou de l'Impact de Montréal. On espère qu'on commence quelque chose de le fun. Avec Martino, c'était naturel. Là. Il y avait, depuis la dernière année, il y avait tellement eu de choses qui ont changé dans son dans sa vie puis qui nous intéressent. Tu sais. Puis Nick, dans la dernière année, il a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Il peut juste en compter probablement 10%. Heureusement, nous, des fois, on a accès au reste. Avec Vendrell aussi, c'était le fun. Tu sais, c'était le fun de parler à quelqu'un qui aime pas Barcelone. Donc, on a quelques idées en tête. Là, on espère que ça va fonctionner. Puis, la formule comme ça, comme on fait là, live comme ça sur Twitter, aussi sur Facebook, où les gens peuvent interagir en direct, peuvent poser les questions. Tu sais, c'est pas donné à tous d'écouter ça live. Il y a toujours la portion podcast, mais ça ajoute un petit quelque chose de plus.
Non, ben, félicitations, tout le monde, allez synthétiser le couscous péripéri si vous n'avez pas eu la chance. Puis on est super content que tu puisses avoir du beau contenu comme ça. Ça fait, j'ai regardé, ça fait à peu près 5 ans que tu as fait ton premier passage
ben ouais, hein?
dans le Lopo à Vendano. C'est la première fois qu'on t'entendait.
Vous êtes mes parents.
Je pense que tu as fait ton chemin de ça, je pense.
Bref, je pourcentage des clics, là.
Oh, ben, gars, je peux te donner 100%. Ça ne sera pas un problème. Mais moi, je suis déçu. Je pensais qu'on avait droit à la toune en partant, là.
La toune va juste dans la version audio, hein, c'est ça. C'est le montage en arrière du producteur, le chat Alec, qui va tout nous arranger ça.
Le frère depuis son clavier, là.
on m'a enlevé ça de ma responsabilité. Nilt, juste pour ceux qui ne savent pas, on commence toujours à poser comme question. Dans le fond, c'est quoi ton club de cœur, le club que tu suis, là, disons, quotidiennement, puis que tu pourrais faire des choses méchantes pour ce club?
Oh mon Dieu! au niveau club, j'ai pas cet attachement-là maladif, mettons, là, tu sais. Oui, je suis un supporter du FC Porto de Montréal depuis quelques temps, tu sais. J'aime ça voir l'ascension du club des Açores à Santa Clara. J'aime ça les voir se battre parmi les gros. Mais tu sais, je suis pas autant fâché après une défaite que je peux l'être pour la sélection portugaise. Yeah. Écouter un match de la sélection portugaise avec moi, c'est forcément désagréable. Puis c'est là que tu sais si t'aimes un club ou pas, tu sais, tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Tu détestes quelqu'un que t'aimais toute ta vie, mais pendant 2 heures, tu serais quasiment prêt à le tuer. Tu sais, puis je suis pas quelqu'un non plus, quand je vois un match de la sélection portugaise, je suis pas capable vraiment de l'écouter en groupe, tu sais. Être dans un bar, écouter avec du monde, que 75% du temps, tu sais, 75% des gens qui sont là ont vu peut-être 90 minutes de foot dans l'année, puis qui font des commentaires, ça me tue. Mais juste pour cette game-là, en dehors des games de la sélection portugaise, je suis un peu plus chill. Puis j'aime pas voir ce qui se passe aussi au niveau des clubs. On le voit là au Portugal, on va peut-être en parler plus tard.
Ouais.
Il y a une certaine violence exagérée. Ouais. Tu sais, même à Montréal, des fois, je vois des réactions dans les tribunes sur Twitter. Je trouve ça un peu too much, là. Reste du sport. Des fois, on s'énerve, puis on n'a même pas raison de s'énerver. Bref, tu sais, j'essaie de me détacher un peu de ça, dit le gars qui sac en portugais après un penalty accordé contre
Justement, ce serait qui pour toi la plus grosse rivalité avec le Portugal? Ces dernières années, il y a peut-être eu la France, depuis 2006.
Ça doit dépendre, parce que tu sais, au Portugal, puis les Portugais en dehors du Portugal, c'est pas pareil.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas le même vécu. Tu sais, je me souviens, moi, dans les années 80, je détestais les Italiens. Parce que les Italiens gagnaient toujours de toutes les façons. On était incapables de faire quoi que ce soit. On jouait contre l'Italie, c'était une défaite assurée, tu sais. Puis je les enviais d'avoir cette suprématie-là, puis ce côté hautain où rien pouvait leur arriver, tu sais. Puis une fois qu'ils sont finalement vulnérables, mais là, tu les détestes moins. Tu sais, j'ai trippé voir l'Italie manger une volée contre la France, t'sais. Perdre en prolongation parce que je les voyais tomber finalement de leur piédestal. Ouais. Mais au Portugal, eux autres, ils ont leur propre rivalité. Dernièrement, il y a la rivalité avec la France qui est toute récente parce qu'elle est attachée à certaines histoires. La fameuse main de Xavier. Il y a plein de Thierry Henry, notre super-héros tout récent, qui plonge contre le Portugal. C'est dégueulasse comment il tombe. Ouais. Fait on finit par... Tu sais, c'est fort comme mot. On finit par détester des clubs ou des pays parce qu'il s'est passé dernièrement. Puis souvent, il y a des pays qui vont nous détester, puis on le sait même pas parce que, tu sais, nous, on est là, on est tranquille, on a battu telle équipe, on s'en est même pas rendu compte qu'on a un peu triché. Eux, ils nous détestent, puis on le sait pas.
Je vais y aller peut-être géographiquement, la rivalité de la péninsule ibérique avec l'Espagne. C'est une question qu'on a posée à Mike aussi. Lui, c'était plus pour le Real Madrid, mais toi, qu'est-ce que tu en vis? Qu'est-ce que tu t'envirais à l'Espagne, à la sélection nationale? Là?
La France, j'aurais dit, ils ont un réseau de recrutement énorme en dehors de la France. Mais l'Espagne, c'est drôle parce que moi, ce que j'ai entendu à chaque fois qu'on parlait de l'Espagne, bon, concernant les Portugais, c'est qu'il fallait pas les envier. Tu sais, Mourinho, Ronaldo a tout le temps eu ce genre de discours-là pour dire c'est pas parce qu'on est plus petit qu'on est juste 10, 15 millions qu'on peut pas battre, on peut pas battre un pays qui est 4, 5 fois plus nombreux. Tu sais, moi, ce que j'envie de l'Espagne, justement, c'est cette profondeur-là. L'Espagne peut aller chercher comme la France, l'Allemagne, le Portugal, je sais pas comment ils font pour être aussi producteurs de talent de foot avec une population si petite. Tu sais, j'avais déjà eu un débat avec Arcadio où je disais, ben, si le Portugal gagne la Coupe du Monde, c'est mille fois plus méritant que l'Argentine. Votre population est énorme. Et lui, il comprenait pas ce calcul-là mathématique, il avait aucun sens, mais c'est mathématique. Tu peux pas ostiner que 2 plus 2 fait 4. Tu ne peux pas. C'est pas vrai que tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres, là. C'est une vérité. Fait que moi, ce que j'envie à l'Espagne et à d'autres pays comme ça, c'est le bassin. Le Portugal, eux autres, ils ont réussi à être performants dans ce sport-là parce que malheureusement, ils se concentrent uniquement sur ce sport-là. Tous les athlètes, pratiquement, font du foot. Ceux qui sont pas assez bons avec un ballon, ils font de l'athlétisme. Puis après, tu sais, il reste plus grand-chose. T'sais, oui, il y a quelques sports qui sont populaires au Portugal, mais les plus grands athlètes finissent dans le foot.
Après, là, sûr que la qualité de développement, elle est forte aussi. Tu sais, un peu comme l'Uruguay, qui est un très, très petit pays, mais qui va toujours amener, bon, Diego Godin, Luis Suarez, toujours des très grands joueurs, là.
Mais ça devient plus irritant quand tu vois ces pays-là réussir, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tu sais, le bassin est petit. Un joueur blessé, ça fout un problème énorme. Tu sais, ils sont capables d'adapter le style aussi. Si t'as pas de buteur, c'est pas grave. T'as des milieux de terrain de qualité énorme. Tu sais, l'Espagne a réussi à aligner ses championnats. Ces trophées-là sans avoir vraiment un marqueur pendant toutes ces années. Tu sais, oui, il y en a eu un peu, il y a eu Villa qui a fait un peu. Tu sais, mais tu sais, il finissait jamais parmi les meilleurs buteurs du tournoi ils allaient chercher un style qui correspondait à ce qu'ils avaient comme force.
Mais c'était l'Espagne, ça a été, surtout je pense en 2010, c'était des matchs gagnés 1-0, puis. On gardait le ballon plus longtemps. Puis
on finit par l'oublier. T'sais. Souvent, dans un tournoi, on critique la façon. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? C'est sur Wikipédia, puis on voit des chiffres qui s'alignent un après l'autre.
Exact.
Ouais. Ouais. Alors, tant mieux. Écoute, on va souhaiter au Portugal. On sait que l'Euro aurait commencé cette semaine.
5 ans champion d'Europe.
il y a au moins y a ça. On va leur souhaiter une bonne préparation pour la prochaine Euro. Est-ce que tu donnes cher dans leur peau?
Une année de plus à certains vétérans, là, ça peut coûter cher, mais en même temps, c'est une année de plus pour certains jeunes qui poussent aussi, surtout en défense centrale. C'est dans un an. Il peut tellement se passer de choses, puis le calendrier international est tellement chamboulé, les joueurs vont jouer tellement de matchs. Je sais pas l'impact qu'il va avoir dans un an, franchement.
C'est clair. Ouais, même des joueurs comme Bernardo, il n'y avait pas une si grande année que ça cette année comparé à l'année passée. T'sais, peut-être lui, ça va lui faire du bien. Mais t'sais, Cristiano, un an de plus.
Ouais, c'est inquiétant.
La défense. C'est quoi qu'il y a des jeunes qui arrivent, là, Ruben Dias du Benfica et tout, qui je pense qu'ils sont très, très intéressants. Ouais. Mais ouais. Je pense que le Portugal, en fait, c'est je dirais pas bien, mais je pense pas que ça les affecte tant, en fait. Je pense qu'il y a une année de plus, ça va. T'sais, mettons la France qui avait plein de blessés, eux, ils sont pas limite contents. Là.
Le Portugal, pour moi, c'est toujours l'idée, c'est comment les gens vont jouer, comment l'équipe va être structurée. Est-ce qu'on va encore faire, OK, ben Ronaldo, fais ce que tu as à faire, puis on va t'aider, ou on va jouer un jeu plus collectif, disons, tu sais.
Ben, pendant l'Euro, ils sont revenus à du vieux foot, un 4-4-2 très, très, très classique avec un Ronaldo qui était libre de faire ce qu'il voulait. Est-ce qu'il faut changer justement pour insérer Bernardo Silva qui va être un peu plus utile? Les milieux de terrain, est-ce qu'on veut une combinaison solide défensivement ou quelque chose qui est beaucoup plus créatif? Selon moi, c'est le calendrier qui va déterminer la composition d'à peu près toutes les équipes. On s'enligne pour 12 mois de foot sans arrêt, là.
Ouais.
Jusqu'au prochain Euro. Ça va faire mal à certaines équipes.
Les gars qui sont pas en forme, ils vont avoir des blessures aux genoux et tout, là, ça va être une compétition compliquée. Ouais. Justement, rentrons dans l'actualité, quelques petites nouvelles en rafale. Première des choses, bon, vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans le monde en général, l'appui, dans le fond, à la communauté, disons, bon, mondiale pour tout ce qui est en lien là, avec le Black Lives Matter et tout ça. Est-ce que vous avez vu plusieurs joueurs de foot faire des actions, écrire des messages, porter des maillots à l'effigie, tout ça? Est-ce que vous pensez que ça va changer un peu la dynamique? On sait que surtout au foot, il y a encore beaucoup de racisme, là, notamment en Italie, où on crie encore là, des cris de singe. En Russie, il y a encore un peu tout ça, même dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet un peu sur tout cette patente-là qui est dégueulasse, là, Milton?
Tu sais, le sport, le foot, tu sais, on n'est jamais à part de notre société. Là, tu sais, je veux dire, c'est juste un reflet, c'est juste. C'est pas vrai que les joueurs sont moins racistes ou plus racistes. Là, c'est pas vrai que les partisans sont plus racistes ou moins racistes. C'est exactement la société dans un microscope sportif. T'sais, moi, je peux pas commenter ce qui se passe en Italie. Je le comprends pas trop. Puis c'est pas vrai que c'est pas en Italie en général. Il y a une tranche comme ça, tu sais, au Portugal où des joueurs noirs fait partie de l'histoire du Portugal. On a vu des joueurs noirs avoir de la difficulté en Allemagne puis être des héros aussi en sélection. Bon, pour moi, c'est une méga aberration. Quand je vois quelqu'un. C'est la dernière chose que je remarque, c'est la couleur de sa peau. Moi, ce que je remarque, c'est sa culture différente qui va m'intéresser. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le sport. Quand je vois la NFL, les commissaires faire son speech pendant ce temps-là, on a niaisé Kaepernick pendant tant d'années. Tu sais, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oh, tu sais, mettre un genou à terre avant le match, c'est cute, mais il faut être réaliste. Tu sais, il faut agir. Quand ça compte, là, je veux dire, quand un joueur se fait lancer des bananes, c'est là que tu dois agir. Quand un joueur est tanné puis qu'il veut, c'est à Porto, il est arrivé avec Maringa, là, il a voulu quitter le terrain. Tout le monde a réagi de façon un peu bizarre. Je sais pas comment moi-même j'aurais réagi. Ouais. Lui, il voulait quitter le joueur, le coach, je voulais absolument le laisser sur le terrain avec leurs propres raisons à eux, là. Mais tu sais, c'est là qu'il faut réagir, là. Il faut être prêt mentalement, tu sais, il faudrait quasiment se conditionner à prévoir qu'est-ce qu'on va faire face à du racisme dans le sport. Tu sais. Deux semaines plus tard, après le décès de Gavin Floyd, voir 22 joueurs un genou à terre, tu sais, oui, c'est un message, mais moi, je veux voir ces joueurs-là réagir face au racisme quand ils voient ça.
C'est clair, puis tu sais, en Amérique du Nord, c'est clair, ça frappe plus, mais tu sais, le retour de l'NBA est en péril en ce moment, parce qu'hier, je pense, il y a 80 ou 100 joueurs menés par Kyrie Irving ont appelé l'NBA qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, tu sais, de revenir comme ça, qu'eux voulaient protester aussi de leur façon, puis que c'était à eux aussi, les joueurs, de prendre la décision de revenir, puis peut-être à leur terme aussi. Fait que, tu sais, si mettons, eux décident de pas jouer ce tournoi-là pour protester, ça, c'est déjà un énorme impact, là. Mais effectivement, après, Nathan, comme tu as dit, c'est dans des situations live en tant que telles, parce que malheureusement, ben heureusement peut-être pour nous ici, on le voit pas trop, mais en Europe, ça ben trop souvent dans une semaine, t'avais 2-3 highlights de gars qui voulaient quitter le terrain, là. Puis c'est horrible.
C'est une catastrophe, surtout, tu sais, dans le foot est un... je sais pas, c'est un lien de la société, ça rassemble pas mal tout le monde est fan d'une équipe dans un endroit, donc ça devrait pas être un... Le fait que quelqu'un vienne d'une place ou d'une autre, ça devrait pas être un problème, parce que ultimement, on est tous ensemble pour supporter notre famille, notre club, donc c'est quand même la merde que tout ça arrive. Mais, écoute, on va donner notre support, puis on va souhaiter que les choses changent, comme tu as dit, Nathan, que les joueurs réagissent.
Ben, le méga point positif, c'est qu'on va arrêter de se taper les hymnes nationaux pendant la MLS. Un grand pas pour l'humanité.
Ouais. On va reparler de la MLS, mais au moins il y a ça. Une autre nouvelle que tu as relayée, Nathan, juste un peu avant d'entrer en onde, celle de Jonathan David, qui serait bon dans la mire, évidemment, de certaines équipes. On le verrait peut-être au Portugal. pour une somme plus ou moins avoisinante, là, les 25 millions. Comment tu réagis un peu à cette nouvelle-là? Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle pour son développement, ultimement?
Ben, c'est sûr que c'est sa dernière saison là-bas. Là. Il est pas parti en janvier parce que souvent, c'est pas l'idéal au niveau financier pour une équipe de vendre en janvier. 25 millions, ça peut sembler cher. Parce que les Européens voient son passeport, il n'y a pas vraiment. Oui, il y a des vis qui donnent une espèce de saut de qualité.
Ouais, tout d'un coup.
Oh, OK, un Canadien, c'est possible qu'il soit bon. Des vis, c'est un Argentin, c'est un Brésilien. Il est vendu là, à 25 millions. On ne pose même pas de questions. Ouais, le chèque est fait. Là. Une équipe comme Porto qui s'intéresse à des vis, mais ça démontre. Porto fait partie de ces clubs-là qui vont chercher, qui servent de tremplin. De cap, tu sais, pour le méga step de carrière, là, tu passes par Porto, tu rises, tu l'as une saison ou deux, puis t'es revendu 60, 80 millions facilement après tout. Si c'est pas là, tu sais, au Portugal, il commence à avoir des problèmes aussi financiers, à Porto, entre autres, mais il faut, l'endroit où il va atterrir, il faut que ça soit l'endroit où il va jouer, tu sais, il faut pas. Il y en a plein de joueurs qui ont fait, c'est ça. Il y a plein de joueurs qui ont fait des steps. Davies est pratiquement chanceux de ce qui s'est passé au Bayern. Le step était, ça peut pas être plus gros. Exactement. Le fait qu'il réussisse, c'est la combinaison de blessures, son changement, entre guillemets, de position. Je vais le voir, Étienne, j'ai décroché. Dis celui avec la coupe de cheveux bizarre.
Ah, c'est clair.
Mais oui, tu sais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir David ailleurs dans son développement. Puis David qui se retrouve en Angleterre puis qui réussit pendant qu'un Davies réussit au Bayern. S'il avait été américain, on s'entend que le site de la MLS, il serait tapissé.
Ah, ouais.
Mais quand je regarde ça, je capote parce qu'il y a 2-3 ans, il était dans notre cours à Ottawa. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Ouais, ben oui, on l'a vu. On l'a probablement vu, c'est sûr. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun club qui a réussi à
avoir le projet de la MLS?
Ouais, c'est ça. Avoir cette équipe
dans sa cour. J'ai un ami français qui, une de ses connaissances, bon, il y avait des contacts avec des recruteurs à la Gantoise. Et l'agent de David avait dit, quand il était jeune, on l'a proposé à tous les clubs canadiens de la MLS, puis personne n'a voulu de lui. Tout le monde a dit, non, c'est bon, on n'est pas intéressé, on a des académies, nous. Ça va.
J'espère qu'ils sont tous congédiés, ces recruteurs-là. Mais ben, j'ose croire.
Ben, recruteurs,
c'est que c'est pas vrai. Ça se peut pas.
Après, ça dépend.
Parce que les équipes en avaient il y a 2-3 ans aussi, des recruteurs. Tu sais, l'Impact, on sait qu'il n'y avait pas vraiment de recruteurs dédiés au club. C'était des réseaux d'agents.
Ouais.
Donc, il y a ça aussi. Là. Je pense que là, j'espère qu'on ne fera plus ces erreurs-là.
Avec non, c'est clair. Ben, je pense justement que Davis et David vont peut-être ouvrir des yeux, même à nous ici. Tu sais, on va peut-être se dire, bon, c'est vrai, on peut en sortir des joueurs finalement. On dirait que même nous, on n'y croyait pas. Puis, tu sais, en allemand, comme Nilton t'a dit, j'ai aimé ton point. Le fait de, quand il y a une pépite brésilienne, tu vois, on veut le prochain Neymar maintenant, fait qu'on va, tu sais, Vinicius, Rodrigo, c'est les prochains Neymar. Les jeunes français, c'est les prochains Kylian, Mbappé. Là, ça va être Jonathan David, on veut le prochain Alphonso Davies. Là.
Mais selon moi, David a un plus grand potentiel que Davies.
Ben, c'est
je pense aussi.
Quand je le vois offensivement avec le ballon, il est tellement dangereux. Là.
Ouais.
Et il est calme.
Sa créativité, ses déplacements, il peut être dangereux pour créer ou pour terminer un jeu. Je le vois, sa marge de progression, elle est vraiment énorme.
Ouais. Non, clairement. Puis Porto, c'est déjà. En fait, je suis content que lui ne fasse pas le gros step parce que les 9 qui font une étape trop haute, ils vont juste pas jouer. Tu sais, mettons, si lui se retrouve au Bayern, jamais il joue devant Lewandowski. T'sais, s'il va Porto, Ajax, comme Telo Juro dit, les Spiches, des équipes comme ça, où ce qui est intéressant, parce qu'ils mettent, ces équipes-là, leur objectif, c'est mettre en valeur ces joueurs-là pour les flips et les revendre beaucoup plus cher. Fait qu'ils les mettent en valeur, genre. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour eux.
Non, à voir, je pense que peut-être l'idée aussi des joueurs comme ça, peut-être que ça va ouvrir les yeux. Si on se met à avoir des prix intéressants pour des passeports canadiens comme ces deux gars-là, peut-être que là, bon, le plan de la MLS, venir jouer à 17-18 ans, merci, bonsoir, on quitte à 20 ans. peut-être la MLS va acheter ce plan-là, puis on va développer davantage de jeunes, parce que pour l'instant, la MLS, c'est pas la ligue qui investit le plus dans ces jeunes-là, puis c'est un problème. C'est des jeunes étrangers qu'on va chercher à 22 ans, qu'on va revendre à 24-25. Faudrait peut-être aller un peu plus dans nos cours, mais bon, ce sera à voir.
Ouais, puis j'espère que même nous, on va croire plus à nos jeunes, là. Tu sais qu'on va... Ouais. C'est justement le prochain jeune qui va te faire des clubs MLS. J'espère qu'on ne va pas tout l'ignorer.
C'est sûr. On est à une semaine de la reprise de 38 ligues en Europe. Le foot s'en vient là, à plein gaz. Et il y a certaines ligues, notamment la Ligue 1, aux Pays-Bas et tout ça, c'est pas décidé. Ils ne veulent pas nécessairement reprendre. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pris une mauvaise décision?
C'est dur à dire de prendre une mauvaise décision quand, pendant une pandémie, tu décides de pas risquer la santé du monde, là, selon moi. Mm-hmm. Après, c'est une question de perception, je pense. Là, tu dis niveau argent, niveau droit télé qui perdent, peut-être. Mais j'ai de la misère, moi, à qualifier ça de mauvaise décision avec le contexte actuel. Là.
Mais c'est sûr, justement, dans le contexte actuel, peut-être que les gens ont besoin d'un vecteur social pour...
Ouais, d'après peut-être une décision hâtive, selon moi.
C'est là le plus gros problème. C'est la prise de ces décisions n'était pas nécessaire à ce point-là.
Ouais.
Ils ont pris ces décisions en France à cause des droits télé.
Ouais.
En Belgique, c'était différent parce que la saison allait terminer, il restait la phase éliminatoire. Ils ont décidé de skipper la phase éliminatoire. Il y avait, je crois, tu sais, il y avait... Puis à ce moment-là, ceux qui étaient contre cette décision-là, ça change pas aujourd'hui. Là. C'est pas du second guessing, là, mais à ce moment-là, les gens qui critiquaient la décision, c'était le timing. Quel était l'avantage de décider aussitôt?
Exact.
Pourquoi fallait décider aussitôt?
On dirait une petite guerre d'orgueil maintenant. Là. Eux qui ont dit non au début, veulent plus changer d'idée parce que sinon, ils vont avoir l'air soft.
On dirait Twitter.
Exactement. Tout le monde fait juste s'estiner. Tandis que là, les perdants, c'est surtout les clubs relégués, les clubs qui finiront ne joueront pas l'Europe, les joueurs en tant que tels aussi, puis c'est un bordel. T'sais, exemple, les joueurs du PSG, ils veulent pas baisser leur salaire. Fait que le PSG, bon, oui, ils ont peut-être illimité d'argent, mais quand même, les salariés du PSG, eux, en ce moment, sont pas payés. Ouais, fait que ça fait un immense bordel pour une décision qui a été prise trop tôt. Et de ce que je comprends en écoutant souvent After Foot, surtout, là, le RMC, c'est que ceux qui ont pris ces décisions-là, c'est peut-être pas des experts de foot non plus, tu sais. Fait que, tu sais, pourquoi pas dire on arrête jusqu'à temps? Ben, comme toutes les autres ligues, dans le fond, on arrête
pour l'instant
et on verra qu'est-ce qui se passe après. Tu sais, si on reprend, on reprend. Si on peut pas, on peut pas. Et that's it.
C'est l'Italie. C'est l'exemple le plus extrême. Là. L'Italie ont attendu, ils ont réglé leurs problèmes. Tout le monde voyait l'Italie annuler leur saison. Là. C'était impensable. Là, on est en plein dedans. Là. Même la Serie B joue des matchs. Tu sais, oui, on pouvait pas reprendre la saison comme c'était avant.
Ouais, clairement.
Mais c'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'alternative. Là, les Français, les Belges, les Hollandais, ils regardent autour et ils ont l'air fous. Ils ont l'air fous parce que oui, c'est noble là, de vouloir sauver des vies. C'était ça l'enjeu. Mais cette crise-là a tellement évolué de jour en jour. Ce qu'on pense hier, puis ce qu'on va penser dans 3 mois, peut-être que dans un an, on va se trouver complètement fou d'avoir été confiné comme ça. On peut pas savoir ce qu'on a fait est bon ou pas bon. Moi, je suis pas capable de le déterminer, mais ce que je suis capable de voir, c'est que l'annulation de la Ligue 1, ça a été une grosse erreur. Puis il va falloir qu'ils l'assument parce qu'il va avoir des poursuites, il va avoir des s'ils veulent éviter des poursuites, ils vont avoir des enjeux de calendrier dégueulasses.
Et les équipes qui jouent la Ligue des Champions, si Lyon et PSG reviennent dans la Ligue des Champions, ils sont pénalisés incroyablement.
Mais ils vont pouvoir faire des matchs amicaux, je pense, à partir de juillet, donc. Ouais, moins il y aura ça. Ils vont pouvoir jouer contre Paris SC puis des trucs comme ça.
Ou peut-être contre l'Impact après leurs 3 matchs.
t'es méchant.
Non, on va aller en finale, Julie. C'est un sondage sur eux qu'on va aller en finale.
Non, on va se garder ce sujet un peu pour plus tard, mais l'Impact va gagner.
Tu oublies qu'on peut.
Ouais. Une autre nouvelle, dans le fond, un des joueurs qui est sur pas mal les lèvres de tout le monde en Europe actuellement, c'est Jadon Sancho par ses performances sur le terrain, puis bon, ce qu'il a fait aussi sur, sur la scène mondiale avec bon, ses commentaires et ainsi de suite. C'est un joueur qui a annoncé officiellement qu'il voulait quitter le club ben, dans le fond cet été. Bon, plusieurs rumeurs le voient aller en Angleterre. Comment vous appréciez ce joueur-là? Puis pour justement un peu la même question qu'on a posée pour David, ce serait où la bonne option pour lui?
Je pense qu'il lui a rendu le gros step, là. Je pense qu'il est rendu, peu importe le gros club qu'il veut, je pense qu'il peut y jouer ou il doit y jouer en fait, parce que là, bon, il est dominant à Dortmund, qui est quand même un très grand club, là. Mais là, il doit aller jouer, il doit aller chercher les trophées. Je pense qu'il a le talent pour être dans les 10, 15, 20 meilleurs joueurs au monde. Fait que c'est à lui de le démontrer maintenant. Après, c'est vraiment ce qui est fait à Dortmund, c'est intéressant. Mais maintenant, on va vouloir voir justement la confirmation. Fait que,
pour le long terme, ouais.
Moi, je pense que United serait intéressant parce qu'il va jouer beaucoup. Parce qu'il va être le projet du retour de United, ça va être Sancho en Angleterre, un joueur anglais. Mais c'est un joueur qu'on a entendu les derniers mois que professionnellement, il y avait un petit peu de la misère. Est-ce qu'il perd de la motivation? Mais si tu regardes ses stats, je pense qu'il y a 18 buts, 18 passes décisives, un truc comme ça, là, puis c'est exceptionnel. Fait que je pense que la prochaine étape, c'est le gros transfert à 100 millions et à lui de confirmer ça, avec cette pression-là.
Ouais, puis ça va être un méga step mentalement, parce que s'il s'en va comme ça en Premiership, probablement avec le record en transfert, là, qui, je ouais. pense que c'est pas Pogba qui a eu ce record-là. Ouais. Puis Pogba aussi a eu de la misère à l'assumer. Il est arrivé à Man U avec la grosse étiquette. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu un bon tournoi. Mais tu sais, Coupe du Monde, c'est 4-6 semaines. Puis sur le terrain de Man U, ça a été hyper compliqué. Puis là, tout le monde annonce Sancho à Liverpool. Moi, j'aimerais voir ailleurs. J'aimerais voir les autres équipes challenger un Liverpool.
Liverpool, je voudrais leur empêcher d'amener des gars pendant un ou deux ans. Là. C'est beau, vous êtes trop fort.
Mais je pense que le board l'empêche. Timo Werner était censé, tu sais, avec l'association avec Klopp, était naturel. C'était son objectif à Klopp avec les départs qui s'en viennent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il cherche de la profondeur. Sancho, c'est plus que de la profondeur. Mais tu sais, on le voit, Sancho, dans l'effectif de Liverpool.
Facilement.
Moi, je veux le voir ailleurs.
Il prend la place de Shaqiri ou parce qu'il prend la place de qui? Parce que, dans le fond, si tu t'enlèves pas Mo Salah, c'est sûr.
Oui, mais ces gars-là vont avoir une certaine rotation. Les matchs vont se suivre aux 3-4 jours.
Ça fait deux ans qu'ils jouent à chaque 3 jours aussi.
Ah oui. Puis, je me souviens, le gros club de Chelsea, c'était compliqué de savoir qui débutait, là, qui composait le 11 partant du prochain match. C'était compliqué parce que ça roulait toujours. Puis le style de Liverpool demande des jambes fraîches. Mais moi, en tant que partisan, je veux le voir ailleurs. Je veux voir prendre un Man U, par exemple, le tirer vers le haut et challenger un Liverpool.
Exact.
Est-ce que vous voyez un énorme parallèle entre, par exemple, Jadon Sancho et un Dembélé, par exemple? Deux gars qui ont le talent, deux gars qui vont faire des gros transferts jeunes, qui ont fait plus ou moins le même chemin dans la même équipe, mais qu'on sait que peut-être au niveau de l'éthique de travail.
Mais Dembélé, son step n'était pas beaucoup plus gros que ça.
Ouais, moi je pense que oui, parce que Dembélé n'a jamais eu les chiffres que Sancho avait. T'sais, Dembélé a toujours été des. Pendant certains moments, il te démontrait que ce gars-là avait un talent exceptionnel. Mais tu regardais, puis il était très, très pas poli du tout encore. Sancho, c'est pendant beaucoup de matchs de suite, il a montré qu'il était fort, tu sais.
Avec Dortmund.
Avec Dortmund, ouais.
Ça, c'est un gros, gros, gros plus. Après Dortmund, c'est quoi les autres clubs? Tu sais, il y a un maximum 10 clubs en haut de ça, là. C'est tout, là.
Ouais. Mais c'est ça.
Dembélé, le step était très, très gros, là.
Ouais, parce que, tu sais, Dembélé à Dortmund, il était bon. Mais, tu sais, moi, honnêtement, en tant que fan du Barça à l'époque, pour ce prix-là, moi, j'aurais pris Pulisic avant. Pour moi, Pulisic, je le trouvais meilleur à Dortmund à ce moment-là. T'sais, il était plus complet. T'sais, dans le fond, Ousmane Dembélé, il va chercher des pics peut-être un peu plus haut que beaucoup de joueurs parce qu'il a un talent incroyable. Mais si tu regardes niveau constance, c'est montagne russe. Là. Fait que Sancho, je trouve, on dirait qu'il est comme un ou deux ans en avance de Ousmane Dembélé, selon moi.
Peut-être. On verra. Écoute, l'avenir nous le dira, mais un joueur à suivre pour les fans de foot, c'est clair. Puis, j'avoue qu'à Man U, ça pourrait être intéressant parce que ils ont clairement besoin d'injection de talent dans ce club-là. Je comprends pas avec autant d'argent, autant de
joueurs. Rashford et Sancho, deux vedettes anglaises pendant au moins 10 ans, c'est bon pour le club aussi. Hein.
Ouais, ils ont besoin de ça, je pense. Un autre sujet qui est aussi un non-sujet, mais c'était la possible, selon certaines rumeurs venues de Rémi Garde, peut-être au Standard, blablabla. Finalement, ça
So
s'est pas
close.
confirmé. À quel point c'était proche? Puis honnêtement, je me pose la question, Rémi Garde, y a-t-il encore des opportunités pour lui?
Wow, t'es rien? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est
Ouais?
un ancien joueur, écoutez, Lyon. Puis,
Oui, mais Lyon, c'était correct. Après ça, en Angleterre, c'était pas
c'est pas
correct. En MLS, c'était très
bien.
moyen.
Ouais.
Mais en entendre certains, il y avait 26 000 excuses
Ouais.
pour comprendre cette situation. Mais oui, Rémi Garde va avoir des opportunités.
En France,
C'est, c'est, ouais, ouais, sa renommée va lui donner des opportunités. Ce qui s'est passé au Standard, j'en ai aucune espèce d'idée. On lit complètement l'inverse. Ils étaient tout proches, confirmés à gauche, à droite. Le lendemain, ils se sont pas parlé depuis 3 ans. Tu sais, c'est qui dit vrai, qui exagère. Il y a trop souvent son nom associé à des équipes en difficulté pour pas qu'éventuellement il ramasse un club en cours de saison. Tu sais.
Ouais.
Et en plus, il vient avec un package, là, tu sais, on le voit, là, son staff
Sur
auto, il est
les
capable.
contacts, son
C'est ça,
staff.
il va faire venir. Il va falloir qu'il se plante encore une couple de fois avant. Tu sais. Il y a beaucoup de coachs qui ont eu une fiche beaucoup plus atroce que lui pour qu'il soit barré si tôt, là. Non, c'est sûr que Rémi Garde va se retrouver ailleurs. Mais pauvre équipe, ça sera pas super le fun.
C'est clair.
C'est ça. Faut dire les choses vraies.
Ouais, bon, la deux dernières rencontres à faire, le Thiago Silva s'est terminé au PSG, un de mes joueurs préférés lorsqu'il était à Milan. J'espère le voir débarquer en MLS, ce serait
Ça
excellent.
fait combien de temps à Milan? Ça date, là, ça, là. 10 ans? 18 ans?
C'est 2012, 2011, 2012,
Fred,
2013, en ce moment.
tu vis vraiment dans le passé, là. C'est terrible.
Non, mais cette équipe-là, avec Zlatan, avec Pato devant aussi, c'était les dernières Ligues des Champions, là. C'était
Ah ouais, c'est la dernière fois que j'étais bon à FIFA,
Mais quand même, tout un défenseur quand même. C'est sûr que le PSG, c'est peut-être pas l'endroit le plus compétitif, mais quand même a été dominant pendant tout ce temps-là. Puis dernière nouvelle, bon, l'équipe nationale féminine canadienne
ouais.
n'a plus d'entraîneur. On a décidé d'annoncer sa décision, tout ça. J'avais l'impression que depuis Hardman, c'était pas ça, mais bon. Est-ce que l'équipe canadienne féminine est quand même encore une équipe intéressante pour un entraîneur, René?
Oui, c'est sûr que oui, mais moi j'ai trouvé, tu sais, c'est pas vrai qu'on est des experts du foot féminin, là, on regarde pendant les compétitions internationales et c'est tout, là, tu sais,
Ouais,
je suis pas
ouais.
capable de critiquer l'utilisation des joueurs parce que les joueurs qui sont sur le banc, ben, je les ai pas vus jouer, mais le fond de jeu canadien était pauvre, là. Je me souviens du match éliminatoire contre la Suède. Si on pouvait sortir de là avec un match nul, c'était beau, là. Il n'y avait pas de créativité. Mais, tu sais, moi, je suis peut-être radical, là, mais le foot féminin, moi, ça m'énerve de voir un coach masculin, là. C'est censé être la vitrine du sport féminin,
D'accord.
pas juste sur le terrain, t'sais, le reste aussi. Je peux comprendre par nécessité qu'on va aller chercher le meilleur coach disponible pour faire progresser les filles. Mais les filles on est rendu au point du foot féminin, surtout au Canada, on n'a plus besoin des gars pour être là, là. Les filles sont capables et devraient être là, devant son sport, puis le faire évoluer. J'espère que les autorités canadiennes vont se tourner. T'sais, il y en a des options. Il y a l'ancienne assistante de Erdman qui est partie dans la sélection anglaise pour assister Phil Neville. Connaît le champion, connaît les filles canadiennes. Tu sais, j'aimerais ça que, mettons, une fille comme elle, comme Bev, puisse revenir. Il y a l'ancienne joueuse de Pointe-Claire, comment qu'elle s'appelle, j'ai dit son nom, Rianne Wilkelson. Elle s'occupe des jeunes 20 et 18, 20 et 17. Tu sais, je veux voir les filles prendre en main ce challenge-là puis le pousser à leur max. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand je regarde le foot féminin.
Est-ce qu'Alec, peut-être éventuellement une Christine Sinclair pourrait être quelqu'un d'intéressant pour la sélection, la crédibilité, elle connaît la structure?
Ouais, c'est clair, ça serait le fun aussi. C'est notre GOAT, si on veut. Tu sais, c'est une des meilleures joueurs qui joue au foot la meilleure joueur qui joue au foot, je pense, au Canada, mais une des meilleures joueurs qui joue au foot de l'histoire. Oui, après, je
sais. Avec Martha,
bien sûr. Après, je la connais pas. Je sais pas à quel point elle veut être, si elle veut être entraîneur, tu sais. Après, c'est sûr que ça serait intéressant. Niveau crédibilité, comme t'as dit. Niveau respect aussi, niveau exemple. Pour les filles aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau. Donc oui, je pense que ça serait super de l'avoir là. Tu sais, à l'image de, tu sais, des Beckenbauer qu'on a vu sélectionneur et des choses comme ça, tu sais.
Mais tu sais, l'autre step du foot féminin au Canada, c'est vraiment les opportunités professionnelles entre deux compétitions. Tu sais, autant on est content que la CPL donne ce tremplin-là à des joueurs canadiens qui, il y a 5-10 ans, étaient perdus un peu partout. Là, tu sais, les filles canadiennes, il y a le championnat nord-américain, il y a beaucoup de championnats en Europe. Mais tu sais, on est perdus nous-mêmes pour suivre ces filles-là.
Ben
on
oui.
les suit pas beaucoup. Puis moi, je trouve ça dommage de pas être capable de challenger un coach, de challenger la tactique, les choix de l'effectif d'un match d'équipe canadienne, parce que les joueuses, ben, je me souviens juste d'elle il y a 2-3 ans qui joue, ben, tu sais, c'est totalement différent. Tu sais, moi, ça me manque ça dans ce domaine-là sportif féminin, le whole package, là, tu sais, je trouve ça plate qu'on s'en intéresse juste aux 4 ans, exact.
Ouais. Ouais. Mais tu as parlé des championnats, c'est un peu un problème. Tu sais, il y a des joueurs, disons, qui ont des plus gros pedigrees. Tu les vois passer, ils jouent à Orlando. Après ça, 6 mois après, ils s'en vont jouer pour Lyon. 6 mois après, ils s'en vont jouer à Wolfsburg. 6 mois après, ils s'en vont jouer pour Man City. Comme c'est difficile à suivre, on dirait que je sais pas, c'est une question d'argent.
Les clubs féminins ont beaucoup de misère aussi d'une saison à l'autre, donner des priorités différentes. T'sais, Liverpool avait un excellent club féminin et là, je pense qu'ils sont tombés. Ah, moi, je me trompe, je le sais même pas, c'est ridicule. Je pense qu'ils ont tombé de division. Ça, okay. Le budget change tellement rapidement. T'sais, oui, il y a les gros clubs qu'on connaît. On sait que Lyon, c'est-tu Lyon? Oui, c'est Lyon. PSG vient d'en créer un. Barcelone est là, mais Real Madrid vient de s'en créer un. Mais ça change tellement vite. Nous, tu sais, les médias, les blogueurs, on a cette responsabilité-là de présenter et donner le plus de nouvelles possibles sur les filles pour qu'on s'y intéresse aussi un peu plus.
Clairement.
C'est clair. Bon, terminons les actualités. Rentrons maintenant dans les ligues en hausse, les ligues en baisse. On voulait discuter avec toi, Nathan, comme tu es pas mal l'expert de nous trois de la Ligue portugaise. Moi et Alec, on avait un débat à savoir si la Ligue portugaise est encore justement d'actualité comme Ligue de développement. Bon, t'en as fait allusion pour un gars comme Jonathan David, par exemple, que ce serait intéressant. Mais disons, on avait un peu l'impression que cette Ligue-là avait perdu son aura avec les années comme étant une Ligue où, moi je passe au Portugal, je me rejoins un an ou deux, puis après ça, je peux faire le prochain step, là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Les clubs portugais vivent une situation compliquée localement. Là, ils sont un peu stigmatisés par leurs fans. Tu sais, Sporting a beaucoup écopé par la violence. Il y a eu une invasion de leur installation sportive pendant un entraînement. Les fans sont rentrés pour tabasser des joueurs. Tu sais,
je me rappelle de ça.
C'est hallucinant. Pense-y 2 secondes là. C'est comme si au hockey, non?
la semaine passée, il y a des joueurs de Benfica qui ont été leur domicile.
Il y a un ancien joueur du Sporting qui avait mangé une volée d'un fan qui est maintenant rendu à Benfica. Ben, il fait partie de ceux qui ont fini à l'hôpital. T'sais, il change de club puis il finit à l'hôpital deux fois de suite. Ça doit au moins tenter d'aller là. T'sais. Mais malgré tout, le championnat portugais... ça reste l'endroit parfait pour des tremplins de carrière. Tu sais. Ouais. Ils ont toujours été renommés. Des fois, tu sais, il y a eu
une... Tu penses que c'est encore d'actualité?
Et oui, parce que
l'Allemagne peut peut-être pas prendre...
Non, mais l'Allemagne, c'est un autre step. C'est un autre step. Moi, je te dis, en bas, le Portugal est pas très loin de la France pour ce step-là. Les top 4 autres, c'est pas leur objectif. Il y a eu une vague brésilienne au Portugal où les gars passaient par là, les décos passaient par là, il y en avait plein comme ça. Mais maintenant, le championnat portugais a réussi à démontrer sa valeur pour revendre ses propres Portugais. Mm. João Félix, là, il n'a pas connu 5 ans là, de carrière au Portugal. Là. Il a été revendu hyper rapidement. Ça n'a pas pris de temps. Dès qu'il est devenu moindrement bon, ils ont dit, OK, ce gars-là, on connaît sa qualité. Renato Sanchez, même chose. Il a connu une demi-saison à Benfica, un championnat européen de fou, mais il n'avait pas commencé. Tout de suite après, boum, on le revend. Puis, c'est tellement une belle vitrine qu'il commence à avoir aussi des intérêts corporatifs. Là. Famalicão, qui était premier en début de saison au championnat portugais, c'est un club en banlieue de Porto. C'est un stade, je pense qu'il n'y a même pas 10 000 places dans ce stade-là. Fait que cette équipe-là ne ramasse pas de l'argent avec les spectateurs. Il est inconnu. Jorge Mendes, par hasard, il y a un investisseur israélien qui détient le tiers d'Atlético de Madrid. Ils se sont mis ensemble, ils ont décidé d'utiliser ce club-là pour faire justement de la revente de joueurs. C'est leur propre vitrine. Dernièrement, on a entendu des rumeurs que le Red Bull serait intéressé d'acheter un club portugais. Les autres, le club, ils s'en foutent lequel. Ils vont prendre le classement, ils vont prendre le dernier, en disant qu'on achète lui. Puis, tu sais, oui, ça crée... Tu sais, les romantiques du foot n'aiment pas voir ça, mais c'est une façon de faire. Tu sais, le Red Bull le fait partout. Là. En Allemagne, il le fait. Il a pris un petit club, il le remonte. Il le fait la même chose pour l'Autriche. Fait que le Portugal reste encore une belle façon de faire, tu sais, du trading de joueurs.
Et je pense que justement, les investissements, ça c'est obligatoire au Portugal pour la survie, si on veut, du championnat, parce que je pense que les droits télé, là, le partage des droits télé, ça va simplement à Benfica, Porto et Sporting. Tu sais, les autres clubs, ils ont des miettes. Puis, tu sais, ça crée une différence ben trop grosse. Tu sais, je me rappelle l'époque où Braga jouait pour le championnat ou pour le podium au moins, avait fait une demi-finale de Coupe d'Europe, l'Europa League. Et tu sais, là, à part même Benfica Porto, on les voit de moins en moins loin en Ligue des Champions aussi. Le Sporting, on le voit presque plus. Je pense que le Portugal n'aura pas le choix parce que j'ai l'impression qu'il fait mal aussi avec Portugais, c'est que maintenant, les jeunes de 18-19 ans, même 17 ans, ils vont déjà dans les grands clubs.
Mais tu sais, pour qu'un club portugais réussisse en championnat, dans les compétitions européennes, que ce soit en Europa ou en Champions League, il faut une tempête parfaite aussi, là, tu sais, je veux dire. Il faut que ce soit un excellent timing, mais ça reste que les joueurs qui sont là, qui ont la vitrine de la Champions puis de l'Europa, ça leur prend pas beaucoup de temps, là, d'un joueur qui est en bas de 25 ans pour être vendu. Tu sais, à chaque année, il y a facilement une dizaine de transferts de 10 millions et plus. La MLS, elle pouvait faire ça, là, il serait en business, là.
C'est clair.
Parlant de Braga, il y a Trincão qui va être, on parle vendu à Barcelone. Ouais. Le gars, il est hyper jeune, là. Il a pas prouvé, tu sais, oui, il a une belle saison, il joue pour Braga. Passer de Braga à Barcelone pour 20-30 millions, c'est un méga step. Si Barcelone ne se pose même pas de questions avec Trincão, mais que Porto se pose la même pour le même prix des questions pour David, tu sais, on voit déjà comme il y a un certificat de garantie qui vient c'est avec vrai. Ces joueurs qui passent par le championnat.
C'est vrai.
C'est clair, mais en même temps, tu sais, je me demande avec les exemples des dernières années, justement, il y a tellement de joueurs qui deviennent juste des fantômes parce qu'on va les chercher à 18 ans, ils ne sont pas encore prêts, tu les amènes dans un gros club. Puis quand ils sont sur le terrain, à leur première minute, il faut que ce soit décisif.
Ouais, mais en même temps,
si jeune âge, c'est pas rendre service au développement des joueurs, là, c'est clair.
Oui, tu sais, Renato Sanchez, c'est un exemple. João Félix, c'est compliqué. Là, cette saison, il était blessé, mais c'était pas une grosse année. Mais Bernardo Silva, il est parti hyper tôt, là.
Puis à chaque semaine. À mon avis, il est devenu meilleur, plus vieux aussi, là.
Oui, ça, c'est sûr, mais.
Il commence à prendre du galon dans les 2 dernières années, mais avant.
Mais quand tu vois que tu es capable d'aller chercher un gars si tôt et que ça te coûte moins cher, c'est facile à taper sur le doigt quand on paye des gros montants, mais quand tu vois qu'il y en a qui ont pris des risques, ça devient hyper payant. Au niveau global, on voit que ça a plus de sens, peut-être.
Ouais, mais entre vous puis moi, c'est quoi le dernier transfert d'un gars de 18 ans qui avait pas de sens puis que le gars a vraiment réussi, là?
Mbappé.
Ouais, mais le gars était déjà parmi le top 20 des meilleurs joueurs avant son transfert, à mon avis.
Top 20, je sais pas, à Monaco?
Bah, je pense que ouais. Mais en même temps, justement, Bernardo Silva, l'exemple, c'est, il est allé à Monaco. Il a fait le step, un bon step. Puis après ça, tu peux faire le step à Man City. Quand
oh,
c'est
oh,
quand
il y a fait
un temps de...
On peut même dire que il est allé dans un contexte parfait. Là. Il est parti à Monaco, il y avait un coach portugais, il y avait une filière portugaise à Monaco. Ouais. Il faut. On ne le dira jamais assez, puis on va utiliser un exemple local que tout le monde va comprendre. Avec Balou. Des fois, il est trop tôt pour partir, mais des fois, c'est la destination qui est conne aussi. Il faut arrêter il faut être capable de juger sa propre valeur puis avoir l'humilité pour se dire « Non, on fait pas ça. » Oui, c'est beau. Ça va faire les fronts des journaux. Quand on va annoncer que Balou est parti dans une équipe, on va volontairement oublier la lettre B après. Mais faut comprendre le contexte. Si tu pars là-bas, est-ce que tu pars juste pour le tweet de l'annonce ou tu pars pour un step de carrière? Tu peux partir dans un gros club, que ce club-là a déjà un plan pour toi pour te prêter quelque part. Mm-hmm. Mais bon, c'est sûr que c'est tentant. Quand tu vois un joueur réussir puis qu'il y a rapidement puis qu'il y a 2-3, des fois même 10 clubs qui est intéressé en même temps au joueur, le chèque sort là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux court terme. Il y a des coachs qui veulent sauver leur job, il y a des directeurs techniques aussi quand il n'y a pas de
magouille.
Exact. Ça va vite. Puis quand il n'y a pas de conséquences financières, ben ça se permet un peu plus.
Ouais, à voir. Mais écoutez, bon, continuez à suivre le championnat portugais. Il y a encore des bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup Pedi. Je trouve que c'est un joueur super intéressant. Il y en a quelques-uns.
Ouais, il commence à être un peu vieux, lui.
C'est un joueur que j'aime bien.
Mais tu vois, lui, s'il était parti trop tôt, il se serait perdu le championnat portugais. Il fait un peu penser, j'allais dire Simon, mais Simon, il était meilleur.
Il était bon.
Un de mes joueurs préférés, c'est William Carvalho, mais quand Sporting a tout dû vendre ses joueurs parce qu'il était plus capable de payer tout le monde, là, j'ai fait ça va. Au moins, il est en Espagne, c'est pas si mal, mais.
Quand t'avais une doublure au Portugal avec Danilo puis Carvalho, deux milieux défensifs, les gars, tu les regardes, tu les trouves tellement nonchalants, puis ils gagnent tous les ballons, c'est débile.
Florentino Luis de Benfica, que je trouve très bon. Il est jeune en plus. Lui, je pense que c'est le prochain gros à partir à City pour genre 60 millions. Là. Lui et Ruben Dias. Ruben Dias est très fort aussi.
Ouais, Des belles pépites à suivre. Terminons ce segment pour avant d'aller au débat avec la MLS. La MLS a annoncé cette semaine son retour. On sait qu'on va avoir un tournoi, disons, avec un concept, un peu une formule de Coupe du Monde. Les groupes ont été pigés ce jeudi, je crois. Ouais. Et puis bon, on parle, t'en as parlé un peu au début, on parle peut-être de complot du côté de l'Empire
Montréal. OK. Mais y croyez-vous à ce complot-là? Soyez honnête, je vais vous juger juste après.
Ben pour elle, moi je pense que ça tombe bien, on va dire. T'sais, ça donne bien. T'sais, les deux Los Angeles et tout, là. Tant qu'à ça, fais pas un tirage, là. C'est bon, ça c'est les groupes. Puis tu prends une excuse genre niveau géographique pour le voyage, c'est mieux pour tout le monde, puis that's it. C'est tout. Là. Puis tu sais, c'est vraiment plus de fun.
Il y a même pas de voyage. Il n'y a même pas de voyage parce qu'ils sont tous en même place.
Il y a le terrain et tout.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais j'avoue. Je sais pas, mais.
J'avais pas ça jouer contre d'autres équipes que DC puis fucking New England. Ouais, c'est tout le temps les mêmes équipes qu'on joue. Déjà, on joue 3-4 fois par année contre ces équipes-là. Puis c'est les matchs que j'ai le goût de m'endormir au stade.
On s'en allait jusqu'en finale. On va toutes les affronter, ces équipes-là. Non, mais il faut arrêter, là. Les complots, là, c'est terrible. Je veux dire, c'est pas une grosse surprise de se retrouver dans un groupe où on avait 33% de chance d'être.
Ouais, non, c'est clair.
On a séparé. T'sais, Seattle, Portland n'est pas dans le même groupe. Pourquoi qu'on les a pas mis ensemble?
Ouais.
C'est beau,
c'est clair.
On vit dans un moment d'actualité où on se méfie de tout. Puis quand on commence à se méfier en plus de la MLS, là.
Après, le complot, c'est un mot fort aussi, là. Tu sais, on s'entend, je pense que c'est juste, ça tombe bien pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, il y a plus de monde qui vont regarder, c'est clair, là. T'sais, nous, si à la place de Toronto, on avait une autre équipe moins intéressante, et en plus de New England et de DC United, ça aurait été terrible.
Genre Nashville.
Genre, tu sais, là, au moins, t'as Toronto, là, tu as un match au moins que tu es sûr que beaucoup de monde va écouter, là.
Moi, ce que j'ai pas compris, c'est l'intérêt de dire tout de suite à l'avance, Miami et Orlando sont ensemble.
Mais aussi, tu sais, c'est genre, c'est juste été mal géré, honnêtement, mal communiqué, ouais. Peut-être.
Pourquoi ce groupe-là a 6 équipes? Le premier qui m'explique ça, 10% de mes clics, j'ai donné. Je comprends pas.
C'est clair.
Mais bon. C'est une belle question, mais qu'est-ce que vous pensez du format? Bon, les équipes ont joué 3 matchs de groupe. Ces 3 matchs-là vont compter au futur championnat qui va se terminer. Ouais. En fait, se prolonger, semble-t-il, après ce tournoi-là. Après ça, bon, on y va à une formule à élimination. Comment vous voyez ça, les gars?
Je pense qu'ils n'avaient pas le choix de donner un petit bonbon pour les matchs de poule. Je pense que sinon, je pense que beaucoup d'équipes auraient peut-être fait bon, ben, essayez, juste blessez-vous pas, les gars, puis c'est bon. Au pire, on perd, ou tant pis, tu sais. Fait que là, au moins, ça donne des points. Au moins, les gars vont être plus sérieux. Puis après, les matchs à élimination directe, ben, tu sais, tant qu'être rendu là, je pense que quand t'es pro, tu veux gagner. Hein. Je pense que t'as la coupe après, mais je pense que moi, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. Mais fallait donner quelque chose pour les matchs de poule pour s'assurer qu'il y ait une compétitivité assez forte. Là.
Parce que là, si je comprends bien, le premier match serait le 8 juillet, puis on annonce une finale le 11 août. Là. C'est 26 jours de match avec des matchs à 9h le matin, 8h le soir, 10h30, heure de l'Est. Ça va jouer beaucoup de matchs, surtout ceux qui vont se rendre loin. Est-ce que c'est positif pour une équipe qui veut miser sur le championnat de se rendre loin dans ce tournoi-là ou on est mieux de jouer le minimum puis partir quand ce sera le temps?
Moi, je trouve ce tournoi trop court. 3 matchs, c'est trop peu. Il va se passer quoi? La moitié des équipes, un peu moins que la moitié des équipes, fait quoi? 2 semaines plus tard, il ne se passe plus rien. Ils vont jouer des amicaux entre eux. Je sais que ça a été une concession auprès des joueurs qui ne voulaient pas quitter si longtemps. Je les comprends, puis surtout, je les comprends pas de chialer tant que ça sur le fait qu'ils quittent leur famille pour faire leur métier. C'est ce qu'ils font à la Coupe du Monde, c'est ce qu'ils font dans des championnats comme ça. Il y a des joueurs qui quittent leur famille pendant une saison complète pour jouer en MLS. T'sais. Moi, j'aurais voulu, au lieu d'avoir 6 groupes, avoir 4 groupes, 2 groupes dans chaque conférence, avoir un minimum de 5 matchs pour que ça fasse un build-up. Là, parce que il y a un match, oh, attention, on est déjà rendu à la moitié du match, on fait déjà des calculs. Oh, 3e match. Dans 2 semaines, on parle peut-être plus de l'impact. Quel est l'avantage? Pas vrai que les gens, que les marchés des MLS dont leur équipe vont être éliminées, vont continuer à suivre la MLS. Il va y avoir la Premier, il va y avoir la Ligue espagnole. Tout ça va rouler pendant ce temps-là. Je comprends mal pourquoi ils ont voulu shorter ça à 3 matchs. Puis le format, par exemple, j'ai hâte de voir comment les équipes de la MLS, puis je ne sais pas s'ils vont avoir droit à un effectif un peu plus gros que d'habitude. Là. Ouais. Jouer aux 2-3 jours avec des effectifs.
Mais ils vont voir la règle des 5 changements de ce que j'ai
vu. Oui, mais 25 joueurs, 30 joueurs, c'est pas boussé. J'aurais aimé que la MLS profite de ce tournoi-là pour pouvoir donner du temps à des joueurs d'académie. Ouais. Si l'Impact, par exemple, profite de ce tournoi-là pour amener avec eux les mêmes jeunes qu'il y avait pendant le camp d'entraînement, on aurait pu leur donner des minutes, surtout si on jouait plus que 3 matchs, parce que des matchs rapprochés comme ça, là, ça va être l'équipe qui va avoir le moins de blessures puis qui va avoir un banc assez long
tu peux pas perdre un match. Tu sais, à 3 matchs, tu peux pas en laisser passer un.
Je pense que le niveau va être quand même relevé. Puis, la MLS veut aussi offrir une bonne qualité de spectacle, surtout quand il va être en compétition avec tout le monde. Personnellement, si je pense juste niveau stratégique et argent, je veux pas qu'il y ait une équipe réserve qui joue prime time
9h du matin.
pas à 9h du matin, mais admettons à 8h heure de l'Est. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être moins intéressant pour les fans, disons, qui sont des fans occasionnels. Nous, on est fans de l'équipe, peu importe, puis on veut voir nos joueurs se développer. Mais quelqu'un, un nouveau client que tu vas attirer, voir ton 7e, voir un Yao, par exemple, jouer 90 minutes, je sais pas, tu sais.
Ouais, mais c'est pas pour leur donner des. Mais c'était surtout pour des changements. Maintenant qu'on est à 5 changements, là, ça sera pas long. peut-être que Yao, tu vas avoir besoin de lui pour jouer 30 minutes à... parce que tu... parce que Raitala s'est blessé puis que Camacho a encore mal à l'âme.
Comme ouais, ça, la bonne nouvelle, c'est que au moins l'Impact a retrouvé ses blessés. Ouais. Donc, on verra.
C'est une bonne question. C'est une bonne question du CANFC. Pensez-vous que vous allez, qu'on va revoir ce genre de tournoi-là, tu sais, style Coupe du Monde, ça fait des beaux posts Facebook et tout?
Non.
Mais niveau calendrier, c'est compliqué. Hein?
La MLS, elle veut pas se créer des compétitions à l'interne. La MLS, elle regarde son voisin mexicain puis il rêve d'une compétition pertinente et payante à la télévision. Leur plus gros objectif à la MLS, là, en dehors de son championnat, c'est l'espèce de merge avec les Mexicains. Les Mexicains commencent à augmenter leur cote d'écoute. Là. S'ils cherchent la formule depuis 10 ans, puis ça va être là-dedans qu'ils vont travailler, selon moi.
Et même pour la Liga MX, ce serait une bonne chose parce que déjà, le niveau est diminué d'année en année. Là. Quand j'étais allé au Mexique, je suis allé voir un match de l'América. Et si c'est cet América-là qui aurait joué contre l'Impact, on aurait peut-être été champion. Là. Je veux dire, c'était loin du club qu'on avait joué en 2015. Le niveau est de moins en moins bon, fait que tu as peut-être besoin d'un boost aussi. Puis la MLS, je pense, cette rivalité, les États-Unis-Mexique, c'est clair, ça pourrait aider. C'est plus de droits, plus d'argent, plus de bons joueurs.
On a joué à peine contre les Mexicains, puis on déteste déjà des clubs mexicains. T'imagines la folie que ça aurait, tu sais. Je veux dire, si on voyait Santos Laguna à chaque saison, exact. On s'entend qu'après TFC, c'est Santos Laguna qu'on déteste.
Ouais, clairement.
C'est clair. L'autre débat qu'il y a eu sur la formule justement de ce tournoi-là, c'est la fameuse place là, pour la Ligue des champions contre CONCACAF qui va être attribuée au vainqueur. Évidemment, la place canadienne va toujours se jouer avec le championnat canadien, mais dès 4 places disponibles pour les équipes américaines, une va être, dans le fond, distribuée à l'équipe gagnante de ce tournoi-là. Ça a créé un peu des mous. Je ne sais pas si vous avez commentaires.
C'est surtout drôle. Là. À la limite, on pourrait nous donner. Si on se rend en demi-finale, on gagne 2 places internationales. Moi, je veux voir une équipe canadienne gagner, même si c'est TFC, juste pour foutre le bordel chez les Américains. Voir les Américains perdre une place dans la Ligue des champions. J'ai hâte de voir les commentateurs américains chialer là-dessus. Mais tu sais, il fallait donner un bonbon. De toute façon, on le sent, là. Tu sais, si jamais la saison recommence, l'aspect calendrier va tomber un peu. Tu sais, là, il va être tellement différent que la place du champion de confédération était disponible. Fait que c'est cette place-là qu'on est en train de donner. Tu sais, la US Cup, est-ce qu'elle va avoir lieu? On le sait même pas. Bon, la MLS Cup va être donnée, le Super Tour Shield aussi. Fait qu'il restait cette place confédération. Fait qu'elle était facile à donner.
Clairement.
Mais là, la grosse différence, c'est qu'un club canadien a maintenant le droit de
prendre une place américaine. À voir. Puis moi, ce que j'ai bien hâte de voir aussi, c'est comment les équipes vont arriver préparer à cette compétition-là. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de villes, que les entraînements n'étaient pas permis. Là, on commence à pouvoir, dans pas mal toutes les villes, avoir des entraînements en équipe, blablabla, tout ça. J'ai hâte de voir la forme des joueurs aussi. Tu sais, techniquement, les équipes s'envolent pour le 24 juin, je pense, pour commencer le camp d'entraînement à Orlando, puis pour un début le 8 juillet. Donc, à voir.
Encore, tu sais, c'est encore un point pour dire que un calendrier de 3 matchs, c'est court. Il y a des joueurs qui vont retrouver la forme, puis ils vont être finalement éliminés.
Ouais. Ouais, mais comme tu dis, je pense qu'ils vont profiter pour rester là-bas, faire des matchs entre eux au moins, là.
Ouais, puis en plus à Disney, il y a moins de monde ces temps-ci, ils pourraient profiter pour faire un tour.
il faudrait puis aussi, par rapport à ça, Olivier Renard a confirmé que la Ligue des champions CONCACAF, ils vont essayer de tout faire pour que cette compétition-là se termine en 2020. Donc l'Impact va peut-être pouvoir remonter le déficit et réécrire l'histoire.
On va finir par rejouer au Stade olympique parce que cette compétition-là va avoir lieu en novembre.
En plus, au stade, on peut pas tout le monde avec 2 mètres de distance.
Non.
Non, mais la foule habituelle.
Ouais, non, je sais pas. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me tente pas d'être dans le pit en haut, dans la zone Budweiser, là, je sais pas trop quoi. Là. Ça m'intéresse, ouais. À voir. On rentre maintenant dans le dernier segment de l'émission. Le débat de cette semaine était à savoir de trouver les meilleurs joueurs à l'extérieur du top 5 d'Europe.
Excuse-moi.
De l'Europe en général.
Fred, j'ai arrêté de t'écouter parce que j'ai lu le commentaire de Stéphane. il manque à peine nommer les joueurs qu'il faut pas qu'ils y aillent, c'est tout. Là. À part ça, tout a été dit.
Non, mais le débat cette semaine, c'est de savoir quel est le meilleur joueur à l'extérieur du top 5
oui.
en Europe, voire à l'extérieur de l'Europe tout court. Je vais vous laisser commencer. Moi, c'est une recherche qui a été quand même complexe ouais. et assez difficile. Alex, je ne sais pas si on te lance le débat.
Ouais, honnêtement, j'ai trouvé plus tough que je pensais. C'est sûr que là, on va chercher des joueurs qui soient. Moi, personnellement, je suis allé peut-être voir la Chine, des joueurs qui sont partis quand même assez jeunes. Toi, tu m'as mentionné Gabriel Barbosa. Je pense que c'est un bon choix aussi, là, l'année qu'il a faite exceptionnelle. Le Flamengo, hein? Exceptionnel. Carlos Vela de la MLS, je pense que tu sais, il y a un niveau encore décent pour jouer dans les top 5 en Europe, mais tu sais, c'était pas un grand joueur non plus. Mais moi, il y en a un que j'avais oublié, que j'ai vu un highlight sur mon Facebook, je pense, hier, là, c'est Oscar, quand il était à Chelsea. Tu sais, il est encore assez jeune en Chine. Je sais pas, honnêtement, je l'ai pas trop suivi non plus. Mais je le trouvais tellement fort. Tu sais, t'es titulaire sélection nationale, titulaire Chelsea. Il mettait des gros buts en Ligue des Champions, là, son but où il efface Pirlo puis met une lucarne à Buffon. Tu sais, je me rappelle, il était exceptionnel. Fait que je vais aller avec Oscar, moi, le Brésilien. Je pense qu'il y en a encore sous la semaine.
C'est un bon choix.
Ouais. Tu sais, moi, j'avais comme deux types de joueurs. J'avais lequel qui, sans la MLS, serait déjà un titulaire dans une grosse équipe. Puis, tu sais, j'hésitais entre. Chicharito et Vela, puis mais je penche beaucoup plus vers Vela. Ouais. Vela a de la place dans beaucoup d'équipes.
Ouais.
Il peut être hyper important dans beaucoup d'équipes. Puis on l'a vu, tu sais, la saison passée, il a dominé la MLS. Là,
complètement.
Tout passait par ses pieds. Tu sais, Vela, si Vela est en Amérique du Nord, c'est un choix personnel.
Ouais.
Ça explique le fait qu'il est en dehors de l'Europe. Sinon, tu sais. C'est qui les prochaines pépites sud-américaines qui s'en vient? T'sais, avant, on avait tout le temps des. C'était facile à identifier.
Tout le monde part vite maintenant.
Comment?
Tout le monde part vite
maintenant. Ouais, Neymar, on le savait, ça fait plusieurs, ouais. ça faisait plusieurs mois, années. Robinho, on le savait. Ouais. Il y a moins ces noms-là. T'sais, il y en a un, c'est Gabriel Veron.
Ouais.
Il y a 17 ans, on l'entend, c'est un ailier qui est comparé justement au prochain Neymar, ainsi de suite, mais c'est pas un gars qu'on a vu beaucoup. Il y a un Argentin, il y a Thiago Almada, lui aussi.
Ouais.
Tu sais, Barcelone, ben ça finit, c'est toujours les mêmes clubs qui est intéressé, Real, Barcelone, tout ça. Fait que tu sais, ces gars-là, moi j'ai hâte de voir ces gars skipper, tu sais, pas aller tout de suite en Europe. Puis j'ai hâte que la MLS commence à aller chercher les joueurs juste avant de se rendre en Europe. Que si l'Argentine.
Les gars à 10 millions, là, tu sais, ouais. Dans ce range de prix-là, puis qu'ils peuvent être vendus à 20, ou sinon, t'es revendu. C'est juste un bon. Des Almiron, ultimement.
Exact. Tu sais, que Neymar, au lieu d'avoir eu deux autres saisons à Santos, aurait eu une saison au Galaxy. Ça aurait été malade. Mais je pense que la MLS, c'est pas loin de pouvoir faire ça. Il faut un risque financier pour le faire parce que ça va pas marcher à tout coup, là. Mais il faut que les premiers marchent.
Je pense que Miami pourrait le faire. Là. Quand tu as un Beckham qui t'appelle, puis tu sais, après, ça dépend qui va être le coach aussi.
Ouais.
Mais ils ont des arguments là, pour attirer ces gars-là. Puis tu sais, je dis ça, là, mais disons Cristiano va à Miami. Beckham t'appelle, Cristiano te rappelle 5 minutes après, tu y vas. Là. Tu vas au moins une ou deux années. Là.
Ben oui. Puis ça, il faut arrêter. C'est ça qu'on en parlait avec Vandril là, cette semaine. Il faut arrêter de snobber puis dire que oh, c'est fini, les pré-retraités en MLS, j'en veux pas. Non, tais-toi. Arrête de dire ça. Là. C'est pas des pré-retraités. C'est des gars qui, au lieu de retourner dans leur club d'origine, après une grosse carrière, ils viennent en MLS, puis ils viennent donner des leçons à nos joueurs, tu sais. Dire que Nani.
Ça fait progresser le niveau.
Ouais. Dire que Nani était fini, puis que c'était ridicule, c'est un snobisme mal placé, là. S'il n'est pas là à Orlando, cette équipe-là, c'est de la merde, là.
Ouais.
Puis, il a, même son implication dernièrement, dans les négociations du retour de la MLS. Il faisait partie des gars qui enlignaient le retour puis qui aidaient ceux qui étaient derrière, qui gagnent 100 000, qui gagnent 125 000, à prendre, tu sais, take care de ces gars. T'sais, donc, la MLS, oui, c'est beau. Il faut qu'on soit capable d'aller chercher les futures pépites pour faire du cash avec. Mais il faut pas oublier que la MLS peut encore servir, a besoin de ces stars-là pour garder le focus médiatique sur la Ligue.
Ouais, puis juste, tu l'as mentionné, juste qu'il y a des gars de talent qui ont de l'expérience. Des fois, cette expérience-là, ça peut pas s'acheter avec un entraîneur ou quoi que ce soit. Puis tu sais, je pense, tu sais, un Drogba, t'as un jeune neuf dans ton équipe. Ah, ok, ouais, ok, je vais venir à Montréal finalement. Ouais, je vais jouer avec Drogba, je vais jouer une saison avec lui, il va montrer comment ça marche.
Drogba a marqué tous les joueurs qui sont là. Ouais. Plus jeune jusqu'à Bernier. Tu sais, Bernier, ouais. Les années Drogba, lui, il va probablement...
Ça lui a donné un
sacrifice. Ouais, puis ça va probablement lui donner une dimension supplémentaire dans sa carrière de coach parce qu'il a vu un Drogba dans la chambre, tu sais. Fait qu'il faut arrêter de snobber ça. Puis je pense que de plus en plus, les meilleurs joueurs en dehors de l'Europe, ça va être dans la MLS.
Nice. Probablement, mais encore là, ça revient un peu sur le débat qu'on avait tantôt. Les gars partent à 17-18 ans pour des grands clubs. Est-ce qu'il y en a qui vont être assez intelligents pour dire non, écoute, achète-moi, mais prête-moi à MLS 2 ans ou 1 an et demi. Je vais aller jouer des minutes, je vais aller jouer du 2000 à 2500 minutes en MLS, avoir de l'exposure. Il y a des marchés intéressants, qualité de vie intéressante. Est-ce que les joueurs vont être assez brillants de faire ce choix-là? Puis, en ce moment, malheureusement, je trouve que les joueurs qui sont excessivement dominants en MLS sont pas garants de réussir ailleurs. Puis moi, c'est un peu ça qui me fait peur en termes d'indice. Est-ce que le niveau est assez fort pour dominer cette ligue-là et être un bon joueur ailleurs ou tu vas t'es condamné à être un joueur moyen d'une équipe moyenne? Tu sais? Le meilleur joueur de MLS va être un joueur moyen à Everton, par exemple, ou à Newcastle, comme Almiron.
Almiron, oui. Mais tu sais, même Martinez, Joseph Martinez, il était... À Torino, je pense.
Exactement.
Puis, il réchauffait le banc, là. Tu sais, il est arrivé ici parce qu'il n'y avait pas de minute de jeu. Il s'en vient ici.
Il vient faire 8 millions US versus peut-être 1,3 million en Italie aussi.
Ça répond un peu à la question de Lalas qui comparait la MLS à la Premier League. En gros, il disait que Lalas disait que la MLS pouvait une équipe de MLS comme par exemple LAFC pourrait très bien faire en Premier League. La réponse, c'est non.
Arrête, là.
Parce que le 11 de MLS, c'est pas si mal, mais après ça, c'est que la IPL, ils ont une structure derrière, ils ont d'autres gars là, pour tourner. Nous, si l'11 est blessé, ouh.
Ouais, et même le 11, tu sais, dans le 11, il y a deux, trois éléments là-dedans. Là, c'est non, là, tu sais, il faut que les équipements... J'allais dire les équipes, c'est pas leur objectif, l'équipe, de trouver la meilleure place quand tu vends ton joueur. Il faut que la MLS fasse attention où il vend ses joueurs parce que, tu sais, un Almiron qui a pris des mois et des mois avant de marquer son premier but en Premier League, ça fait mal.
Ouais.
Ça fait mal. Mais un Davies qui n'était même pas un titulaire, puis qui s'en va devenir le meilleur latéral au monde.
133 millions, semble-t-il, la valeur de transfert en ce moment.
Ouais, c'est moi. Pas sûr que quelqu'un va payer ça, mais c'est pas grave. Donc, il faut pas se voir trop gros, mais il faut pas non plus se diminuer. C'est pour chaque mauvais exemple, il y a d'excellents exemples aussi.
Ouais. J'avais Everton à Grimaud, un jeune Brésilien
Et comment ça a été vieux, lui?
Ouais, mais il y a encore beaucoup d'attention des gros clubs. On parle souvent de lui à Milan, notamment. Là, fait qu'à voir avec lui. J'avais Barbosa, l'ancien de l'Inter, qui a eu une grosse saison en Flamengo. Sinon, la majorité des joueurs qui jouent à l'Ajax, c'est quand même des joueurs à l'extérieur du top 5 qui sont dominants. Ouais. Un Van der Beek, par exemple, est très intéressant.
Excellent joueur, oui.
Puis sinon, moi, j'avais Christopher Ayer qui joue au Celtic, un énorme gars, je pense, qui va faire le saut dans le top 5 éventuellement. Donc, le débat, il y a beaucoup de joueurs. Ça dépend, évidemment, comme Nathan en parlait, la perspective qu'on va chercher. Est-ce qu'on va chercher nécessairement le meilleur joueur à l'extérieur ou celui qui a le meilleur potentiel d'aller dominer? Donc, on vous invite à commenter et à dire votre choix. Alec, Nilton, yep. Super émission. Merci, merci d'avoir participé avec nous, Nilton. Ben oui, c'est déjà fini.
On n'a même pas parlé de Barcelone.
Non, c'est pas important, ça. C'est pas Puis t'as remarqué aussi qu'on n'a pas parlé de Milan aussi.
Un peu, oui, Thiago Silva, là, tu m'as parlé de l'édition 2012.
Ouais, mais il y a des équipes des fois comme ça qui ne pas en parler.
C'est bon, là. Merci de l'invitation.
Merci Nathan d'avoir participé. Écoute, 5 ans plus tard, c'est ton retour au Lopo Mendano. On espère pouvoir te revoir. On écoute évidemment tout le contenu que tu produis pour la chaîne SkinFC et le Couscous Péri avec Sofiane qu'on salue. Alec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Milton, encore.
Puis on vous souhaite une belle semaine. Le foot recommence la semaine prochaine, puis on va avoir beaucoup de sujets à discuter avec vous. Ciao tout le monde.
Ciao. Ciao, ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.